red. Some say it's a natural.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Bamako, 18h à Lomé. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, le bilan qui continue de s'alourdir au Népal après le séisme de samedi dernier. Un bilan qui atteint maintenant les 4010 morts, selon l'agence népalaise chargée de la gestion des catastrophes. Le tremblement de terre a également fait plus de 7500 blessés, selon le Centre national des opérations d'urgence auprès du ministère de l'Intérieur. Des centaines de personnes tentaient aujourd'hui de fuir Katmandou pour échapper aux répercussions du séisme. Jean-Roger Bion.
Alors que le bilan s'alourdit, les rescapés du tremblement de terre se ruent en masse sur les produits alimentaires et les stations-service pour faire des réserves, redoutant des pénuries. Les milliers d'habitants qui ont perdu leur logement et sont contraints de camper craignent maintenant d'avoir à faire face à des maladies. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU, le PAM, prépare une opération massive d'aide et espère envoyer au plus vite un premier avion chargé d'aide alimentaire. Les enfants sont particulièrement fragilisés par le sinistre et près d'un million d'entre eux ont un besoin urgent d'aide humanitaire selon l'UNICEF. Les secouristes népalais reçoivent le renfort de centaines d'humanitaires arrivés de pays comme la Chine, l'Inde et les États-Unis et de nombreux États et organisations ont promis leur aide. Les hôpitaux sont débordés et les médecins sont mobilisés 24 heures sur 24 pour soigner les blessés. Laissés dans des conditions très difficiles, les morgues arrivent quant à elles à saturation. Le tremblement de terre est le plus meurtrier qu'a connu le Népal depuis 80 ans.
Les États-Unis ont annoncé, d'ailleurs aujourd'hui, par la voix de leur secrétaire d'État, John Kerry, qu'ils allaient apporter au total 10 millions de dollars d'aide au Népal.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burundi, des affrontements sporadiques ont opposé aujourd'hui des policiers, des manifestants hostiles à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Des affrontements qui ont eu lieu dans le sud de Bujumbura. Les autorités burundaises ont interdit les manifestations à travers le pays, mais la société civile et une partie de l'opposition ont appelé la population à braver cette interdiction après l'investiture samedi de Pierre Nkurunziza par son parti, le CNDD-FDD, à la présidentielle du 26 juin. Cet après-midi, la situation a dégénéré quand les manifestants ont voulu franchir un barrage de police pour se diriger vers la très populaire radio RPA, une radio indépendante accusée d'incitation au soulèvement par les autorités et coupée cet après-midi. Idriss Fall.
La police, appuyée par les Imbonera Kure, une milice proche du parti au pouvoir, ont dispersé de manière musclée les milliers de personnes qui avaient osé braver l'interdiction de manifester. Hier, au moins deux manifestants ont été tués par balle à Bujumbura. Ce lundi, Pierre Clavé Mbonimpa, défenseur des droits de l'homme, a été arrêté et un mandat d'arrêt a été lancé contre Vital Chimirimana, président du Forum de la société civile. Ils avaient appelé à des manifestations pacifiques. Les autorités burundaises ont fermé la radio publique africaine, principale radio indépendante du pays. Depuis hier, trois grandes radios privées ont été interdites d'émettre en dehors de la capitale. Et elles sont accusées d'inciter les populations au soulèvement. Craignant le pire, au moins 17 000 Burundais ont fui vers le Rwanda et la République démocratique du Congo. Réagissant à la candidature de Pierre Nkurunziza, les États-Unis disent regretter le non-respect de l'accord d'Arusha qui limite à deux les mandats présidentiels et dénonce une occasion ratée pour la démocratie au Burundi.
Le président Omar al-Bashir a été réélu pour un autre mandat de 5 ans à la tête du Soudan avec 94% des suffrages. L'opposition a boycotté le scrutin, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection libre et juste. Lionel Gaïma.
La commission électorale a annoncé aujourd'hui cette victoire largement attendue après les élections présidentielles, parlementaires et régionales qui se sont déroulées du 13 avril au 16 avril. M. Bashir est au pouvoir depuis 1989 et il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. L'homme fort de Khartoum n'avait en face de lui que 13 challengers plutôt inconnus et la participation n'a été que de 46%, selon la commission électorale soudanaise. L'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège avaient tous critiqué cette élection, déplorant l'absence du dialogue national promis, une situation qui prive le Soudan d'un processus politique inclusif.
Au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé est en tête des premiers résultats partiels de l'élection présidentielle de samedi dernier. Eddy Sango.
Il est encore trop tôt pour parler des tendances déterminantes de ces élections. La Commission nationale électorale togolaise n'a publié lundi que 12% des résultats. Toutefois, Faure Gnassingbé mène largement avec plus de 133 000 voix, soit 62% des suffrages dépouillés. Son principal adversaire, Jean-Pierre Fabre, vient en deuxième position avec plus de 68 000 voix, soit 32%. Les autres candidats de l'opposition nagent encore autour de 1% pour ces élections boycottées par une partie de l'opposition. L'opposition avait en effet, avant ces élections, organisé plusieurs manifestations exigeant la révision de la Constitution pour empêcher un troisième mandat de Gnassingbé qui prolonge à la tête du pays un régime dirigé par sa famille depuis 48 ans. La situation reste pour le moment calme, mais tendue au Togo. Le président Gnassingbé avait initialement été porté au pouvoir par l'armée en 2005 à la mort de son père, le général Gnassingbé Yadema, qui avait gouverné le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. Mais il a organisé en 2010 des élections qu'il a remportées malgré les contestations de l'opposition qui ont fait des centaines de morts.
En Afrique du Sud, alors que le pays est montré du doigt après les violences xénophobes, le président sud-africain Jacob Zuma a interpellé ses voisins africains, leur imputant les causes de l'immigration massive en Afrique du Sud. « Nous avons peut-être un problème de xénophobie », a-t-il dit, précisant que nos pays frères y ont contribué. Pourquoi leurs citoyens ne sont-ils pas dans leur pays ? S'est-il interrogé lors d'une allocution prononcée à Pretoria à l'occasion de la fête nationale. Jacob Zuma a consulté à tout va ces derniers jours après les violences qui ont fait au moins 7 morts début avril à Durban et à Johannesburg. Les réactions ont été parfois violentes dans le reste du continent après la vague d'agressions contre les étrangers en Afrique du Sud, majoritairement des Africains. Des appels au boycott des produits sud-africains se sont multipliés tandis que le Nigeria a lui rappelé son ambassadeur à Pretoria. Condamnant une fois de plus ces débordements, le président Jacob Zuma a rappelé que les immigrés contribuaient à l'activité économique du pays. Il a cependant dénoncé un renforcement de l'immigration clandestine, les sans-papiers étant souvent accusés d'accepter du travail moins bien payé.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Yémen, au moins 12 rebelles ont été tués ce lundi dans des raids aériens de la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite contre leur position dans le sud du pays, théâtre aussi de violents combats au sol. Tout ceci selon des sources militaires et provinciales. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé aujourd'hui à l'élimination totale des armes atomiques et a exhorté les délégués à la conférence de suivi du traité de non-prolifération nucléaire, le TNP, à travailler dur dans ce but. Les 190 pays signataires du TNP, entrés en vigueur en 1970, vont tenter jusqu'au 22 mai de relancer le désarmement nucléaire. Ban Ki-moon s'est déclaré très inquiet de constater que le processus de désarmement semble être en perte de vitesse depuis 5 ans. Il a notamment déploré le peu de progrès vers la création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Proche-Orient et les programmes coûteux de modernisation des arsenaux américains et russes. Au lieu de la poursuite de propositions pour accélérer le désarmement nucléaire, il y a eu un dangereux retour à des mentalités de guerre froide, a-t-il souligné. Aux États-Unis, famille, amis et anonymes rendaient hommage à Freddie Gray, un jeune noir de 25 ans mort dans des circonstances encore indéterminées après son interpellation par la police et qui était inhumé aujourd'hui à Baltimore. Le jeune homme est décédé le 19 avril des suites d'une fracture des vertèbres cervicales une semaine après son interpellation dans cette ville de la côte Est qui compte plusieurs quartiers sensibles. Ce décès est le dernier d'une série de bavures qui ont ravivé les tensions raciales ces derniers mois aux États-Unis. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 20 minutes pour notre édition du soir Le Monde Aujourd'hui, présentée par Nathalie Barge et Chérubin Dorsil. Retrouvez-nous 24h sur 24 sur voaafrique.com et notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur